Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est l'interview du jour. Aujourd'hui, on va discuter avec Mathieu Vol. Donc, bonjour Mathieu.
Salut.
Alors Mathieu, tu as réalisé avec Romain Rondet un film qui s'intitule « Marge de manœuvre ». C'est un film qui a été produit par le collectif marseillais Primitivi, un collectif de vidéo-activistes, si on peut dire ça comme ça. Enfin, c'est ça,
ouais,
c'est un peu comme ça que vous pouvez vous définir. Donc, dans ce film, il est question d'un voyage que vous avez entrepris sur un bateau, l'Albatros 2, à la rencontre des militants et des militantes qui luttent de l'autre côté de la Méditerranée, et précisément en Tunisie, pour la liberté de circulation et bien sûr contre les frontières. Donc, je te propose qu'on parte un peu, nous aussi, en voyage, qu'on traverse la Méditerranée pour aller observer donc, ce qui se passe sur ce territoire et que toi, tu puisses nous dire un peu d'où est né ce projet et qu'est-ce qu'il en est ressorti. Donc voilà, ma première question, ce serait de savoir si tu pouvais nous parler un peu du collectif Primitivi, nous dire qu'est-ce que vous faites.
Primitivi, c'est une asso qui s'est créée en 1998. À la base, c'est plutôt une bande de copains qui ont fait des études de documentaire à Aix-Marseille. Et donc, ils ont commencé à réaliser des petits films et sur le quartier de la Plaine, notamment. Leur délire, un peu, au début, c'était de créer des émissions pirates. Donc, ils avaient créé des émetteurs télé. Et quand tu déplaçais ton antenne vers l'émetteur récepteur qu'ils avaient créé, et ben, tu pouvais accéder à des petites émissions qu'ils avaient tournées dans la journée ou deux, trois jours avant, quoi. L'idée, c'était de filmer le quartier, les activités dans le quartier, militantes, associatives, des vides-greniers, par exemple, des concerts, des choses comme ça.
Quand tu pouvais regarder sur ton poste de télévision des productions de Primitivi.
Ouais, c'est ça. Il y avait, du coup, tu calais sur une chaîne hertzienne à l'époque, quoi. C'était un truc assez simple à faire. Et donc, ils ont commencé par faire ces petites choses-là. Et ils ont aussi beaucoup milité pour avoir des financements un peu sur le même mode que les radios libres dans les années 80. Et donc, du coup... En 99-2000, c'était Jospin, le Premier ministre, il me semble. En fait, il avait promis un peu de mettre ça en place. Donc, finalement, ça n'a jamais été mis en place. Mais voilà. En tout cas, Primitivi a toujours été basé à la Plaine, plus ou moins. L'idée, c'est de réaliser des films qui racontent un peu l'histoire d'un quartier, l'histoire des militants d'un quartier, l'histoire des habitants d'un quartier, et de diffuser le plus possible les films qu'on fait.
Et du coup, alors, qu'est-ce qui vous a amené à traverser la Méditerranée et aller filmer ailleurs que peut-être dans la zone de Marseille ou du quartier de la Plaine?
Il y avait déjà eu un film fait en Italie dans les années 2000 sur le G8, mais c'est vrai que très rarement Primitivi s'exporte en dehors de Marseille en termes de films, de production qu'on fait nous-mêmes. Et en fait, il y a eu une asso qui s'appelle Lunapo à Marseille, qui a donc acheté un voilier maintenant, il y a peut-être... collectivement, il y a peut-être 8 ans même. Et ils sont venus nous voir, en fait, et ils nous ont proposé de participer à cette traversée. Et en fait, du coup, Lunapo, leur projet, c'est un peu de proposer de l'initiation à la voile à différentes personnes, des collectifs, des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de faire du bateau. Donc, on avait déjà fait un petit film avec eux pendant une semaine, un petit film de 4-5 minutes peut-être, si je me souviens bien, sur du cabotage entre Marseille et Sète. Et donc voilà, donc en fait, ils nous ont invités et on a très vite accepté. Après, entre Primitivi et Lunapo, il y a des gens qui se connaissent aussi depuis très longtemps. Les réseaux associatifs militants à Marseille, finalement, à la Plaine en tout cas, ils se tiennent en quelques rues. Donc les gens sont amenés à se côtoyer très régulièrement sur des fêtes, sur différents événements, sur voilà, dans les différents lieux associatifs qui font vivre la plaine. Donc ils sont venus nous voir et ils nous ont dit bah est-ce que ça vous tente? Et on a dit bah ouais grave. Après enfin comment on a choisi que ce soit moi et Romain qui partions? Ça s'est fait un petit peu comment dire on en a discuté, on a vu qui était motivé le plus peut-être, qui était disponible aussi le plus pour partir un mois et demi.
Et toi, t'étais déjà parti en mer?
Et bah du coup j'étais déjà parti en mer pour faire ce petit film justement de 5 minutes entre Marseille et Sète.
Ok.
Moi j'avais fait un peu de bateau mais très peu et Romain pas tant que ça je pense avant de partir.
L'idée générale, c'était de partir et d'entreprendre ce voyage. Et le film est venu se rajouter à ce voyage où l'idée, c'était de partir pour réaliser un film.
Et bah, le collectif qui s'est monté, enfin le groupe qui s'est monté au sein de l'association Lunapo. Qui fonctionne un peu de manière, comment dire, avec en assemblée, enfin pas en assemblée générale, mais
L'assemblée plénière.
ouais, disons qu'ils prennent les décisions toujours. Il y a pas de CA avec un président. C'est vraiment un collège. Voilà, ça c'est le collège qui donne les objectifs de l'association chaque année. Et donc au sein du collège, ils ont entre guillemets donné carte blanche à un groupe qui avait envie de partir en Tunisie. Ce groupe-là qui voulait partir en Tunisie avait l'envie. De faire un film sur la traversée dès le début. C'était un peu un des projets, c'était que ce voyage serve à faire un film et aussi peut-être une bande dessinée, ou en tout cas un rapport dessiné de ce qui s'y était passé. Donc le film a été tout de suite, en fait, faisait
Intégré.
partie prenante du projet et des premières réunions de préparation du voyage.
Quels étaient vos liens avec les personnes qui vous ont peut-être accueilli? Est-ce que justement vous aviez déjà des liens précis, des personnes à rencontrer sur place, ou est-ce que ça s'est construit petit à petit une fois arrivé?
Alors, pour Romain et moi, ça s'est construit quand même plutôt petit à petit. Lunapo, du coup, l'association à qui appartient Albatros 2, avait déjà des contacts avec des militants en Tunisie et au Maghreb en général, et puis même en Afrique du Nord en général, notamment via le réseau Alarm Phone, qui est un réseau d'aide et de soutien aux bateaux en détresse en mer, on pourra y revenir après. Mais du coup, voilà, y avait déjà des contacts sur place et nous, on avait une petite idée des personnes qu'on allait rencontrer, mais voilà, pas tant que ça, quoi. Donc, quand on a préparé le film, en fait, c'était quand même assez flou à quoi il allait ressembler à la fin. On avait des pistes, quoi. C'est sûr qu'on avait des envies de raconter des choses sur l'immigration, sur les raisons de l'immigration, sur les raisons d'un départ de Marseille pour la Tunisie, des choses comme ça. Mais en termes de rencontres et de personnes sur place, en fait, Romain et moi, on connaissait personne quasiment.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, la thématique de la migration, c'était déjà au départ ce qui vous a réuni, Lunapo et vous.
Dans Lunapo, il y a des gens qui peuvent graviter dans d'autres structures, d'autres assos, d'autres collectifs d'aide, d'accompagnement aux droits pour les personnes migrantes. Il y avait des pistes comme ça de rencontres. Ils nous avaient bien évidemment dit quels gens on allait rencontrer, mais ces gens-là, nous, on les connaissait pas.
Du coup, comment là, si tu te replonges un peu dans ce départ, donc vous avez un peu préparé ce film, et là, donc vous partez en mer. Qu'est-ce que ça t'a fait vivre, toi, ce départ et c'est le fait de se retrouver tout d'un coup en mer?
Au début, c'était assez stressant, aussi parce que on est parti à 8, les 8 personnes ne se connaissaient pas toutes, donc il a fallu apprendre à se connaître. En tout cas, au début, il y avait quand même pas mal d'excitation, il y avait une super belle énergie, mais ouais, c'était un peu stressant au début. On est parti le 21 mars, donc jour du printemps, et puis c'est mis à neiger direct. On a été dans des conditions de départ un peu avec beaucoup de houle. Bon, on s'était un peu entraîné les jours précédents quand même sur certaines manœuvres. On avait été formé par le skipper du début. Après coup, j'en garde vraiment que des bons souvenirs. Après, ouais, il y avait toujours des moments un peu stressants de manœuvres, de qu'est-ce qu'il faut faire sur le bateau, trouver sa place sur le bateau, pas se marcher dessus, mais vraiment concrètement, quoi, parce que c'est pas non plus un bateau très grand.
Et est-ce que tu peux juste me rappeler, enfin nous rappeler les dates de tournage du film, dans quelle période et quelle année ça s'est fait tout
Ah
ça?
ouais. On est parti le 21 mars 2018 avec Romain et deux autres personnes. On est revenu en avion, nous, début mai, tout début mai. Quand on a fait la traversée de Marseille à Tunis et Zarzis. Et après, on est retourné vers Tunis et pour aller vers Palerme, pour rencontrer aussi des collectifs et des personnes à Palerme. Donc ça
Ouais.
a duré un mois et demi, quoi, à peu près.
Du coup, on va parler de ces collectifs-là que vous avez eu l'occasion de rencontrer. Donc, dans le film, justement, on en voit plusieurs. Il y a plusieurs personnes qui agissent et qui militent différemment. Des personnes qui vont s'orienter vers le sauvetage en mer par presque obligation, on va dire. Des personnes qui vont militer à travers le théâtre forum, à travers l'art. Je te propose qu'on écoute un petit enregistrement. J'ai enregistré des passages du film et celui-là, c'est donc les premières paroles en fait du film. Et après, tu vas pouvoir réagir. Ça te va?
Très bien, super.
في بداية كانت العملية صعبة، بالتالي مع مرور الوقت ولينا معتادين على رؤية المشاهد هذه وعلى معناها نقلها أو معناها التدخل في كل مرة، بدينا معتادين ما فماش مشكل، خاصة معناها بعد الفورماسيون تاع الجاي، ولينا نفسانيا مهيئين لقبول الوضعيات اللي احنا نمر بها.
Au début, ils n'étaient pas préparés moralement, ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils allaient trouver. Mais par la suite, ils ont commencé plus ou moins à s'habituer, surtout après les formations qu'ils ont eues en ce qui concerne le sauvetage. Et donc,
au
fur et à mesure, voilà, ils arrivent à s'habituer et être, pas à s'habituer, mais être préparés à ce qu'ils pourraient trouver. Voilà.
Donc voilà, c'était ce petit passage-là que j'ai décidé de partager du coup avec les auditeurs et auditrices avec toi, parce qu'il me paraît assez, enfin parler du coup de quelque chose d'assez crucial en fait dans la situation de ces personnes. Est-ce que tu peux me dire qui est-ce qu'on entend et comment, enfin où est-ce que vous les avez rencontrés?
Du coup, là, on entend Shamseddine, qui est Bourassine, qui est du coup, qui était, je ne sais pas si c'est encore lui actuellement, mais qui était le président de l'association des pêcheurs de Zarzis, qui est une association qui fait de l'éducation aussi à la mer, qui forme des jeunes adultes au travail de la mer, les garçons et filles. Alors, pas sur les mêmes travaux exactement, mais quand même, voilà, ils forment des jeunes à la pêche, au travail autour de la mer. C'est un peu les premières personnes qui font face aux personnes enfin voilà, aux personnes qui tentent de traverser la mer, donc souvent quand même des corps et pour le dire crûment, même parfois des bouts de corps. Donc ils font face à quelque chose. Et c'est eux qui en parlent les premiers, en fait. C'est eux qui en parlent aux premiers aux associations comme les ONG, qui vont ensuite faire de l'accompagnement. C'est quand même ces premières personnes-là donc qu'on a rencontrées aussi quand on est arrivé à Zarzis.
Est-ce que tu peux me dire où ça se situe, Zarzis, cette zone de pêche là?
Zarzis, du coup, ça se situe au sud-est de la Tunisie, enfin sur la côte. C'est à la frontière c'est à la limite de la frontière libyenne. C'est à 80 km à peu près de la frontière libyenne. Donc c'est une zone, comment dire, proche de réalité avec la Libye assez forte. C'est un euphémisme parce que en fait il y a la frontière terrestre et du coup les frontières maritimes. Et les frontières maritimes, depuis l'élection de Sarkozy et sa décision d'aller faire la guerre à Kadhafi, les zones maritimes libyennes sont plus protégées. Elles sont plus protégées parce que en fait, il n'y a plus de gouvernement libyen qui est capable de faire entre guillemets respecter des règles de loi internationale en mer. Et donc, les pêcheurs tunisiens et de Zarzis doivent faire face aussi à de conflits violents avec les Libyens et les milices armées libyennes les corps d'armée libyens en mer, quoi.
De ce qu'on comprend dans le film, c'est que ces corps armés libyens sont eux-mêmes en lien avec des réseaux en fait de trafic humain,
Non.
enfin d'esclavagisme,
Oui.
et ça rend la situation davantage complexe et que ces pêcheurs-là, du coup, ne peuvent pas comment dire agir et aider à la mesure où ils voudraient le faire.
Disons que ce qu'ils nous ont quand même beaucoup dit, c'est que, en fait, déjà, bon, ils ne sont pas préparés. Bon, maintenant, ça fait 2 décennies, plus de 2 décennies qu'ils font face à ça. Donc, maintenant, ils le sont préparés. Mais eux, ils vont travailler en mer. Et en fait, même pour travailler en mer, il y a des zones dans lesquelles ils n'ont pas le droit d'aller pêcher parce qu'il y a cette armée libyenne irrégulière ou régulière, on ne sait pas trop, mais en tout cas, qui les empêche de travailler parce que. Bah, les Libyens ont décidé d'augmenter leur zone maritime. Donc, pour le sauvetage des corps et des personnes, c'est aussi très, très compliqué. Par exemple, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, Shamseddine Bourassine, donc on entend, et puis des collègues à lui, pêcheurs, sont allés pêcher un peu plus loin que d'habitude, pour éviter aussi bah, le problème avec les gardes-côtes libyens ou les armées irrégulières libyennes. Je sais pas trop comment ils les appelaient, mais du coup ils sont allés pêcher et puis ils ont sauvé une embarcation, des personnes sur une embarcation et les ont déposées, si je me rappelle bien, à Lampedusa. Et à Lampedusa, du coup, bah, ils se sont fait arrêter par les gardes-côtes italiens et ont passé plusieurs semaines en prison. Avec leur bateau rempli de poissons et du coup bah tout ce poisson-là pourri aussi dans les cales du bateau pendant plusieurs semaines et après avoir été libérés ils ont récupéré leur bateau aussi bien plus tard. Donc ouais, c'est des situations assez compliquées où parfois en fait ils peuvent rien faire quoi. Il y a un pêcheur qui le dit dans le film à un moment, c'est que en fait s'ils se sont attrapés avec des gens sur le bateau, bah c'est aussi des risques pour eux de se faire prendre leur bateau, confisquer leur bateau. Donc parfois ils peuvent rien faire, ils appellent juste les gardes-côtes tunisiens ou les bateaux les plus proches qui puissent récupérer les corps, parce que sur les bateaux de pêche tunisiens il n'y a pas non plus énormément de place. Donc ouais, c'est des situations assez compliquées.
Est-ce que justement, quand ils appellent donc les autorités tunisiennes ou peut-être d'autres organisations qui sont censées assurer le sauvetage en mer, est-ce qu'ils ont des réponses? Est-ce que il y a eu des organisations qui s'occupent de ça et qui le font correctement? Ou est-ce qu'il y a un gros vide là-dessus, un gros manque?
En général, les autorités, qu'elles soient tunisiennes, italiennes, maltaises, libyennes, on n'en parle pas, mais souvent elles répondent pas aux appels. Il y a même, y a une, alors je me souviens plus du, faudrait retrouver sur Internet, c'est facile je pense, mais il y a des cartographies qui sont faites des trajets des bateaux et qui montrent que même les bateaux qui sont pas censés faire du sauvetage mais qui passent à côté d'embarcations en détresse ne sauvent pas les bateaux. Donc que ce soit les autorités ou des chalutiers, enfin des gros bateaux de porte-conteneurs qui pourraient peut-être parfois aider les bateaux en détresse, le font pas très souvent. Donc ça c'est une première chose. Et ensuite oui il y a quand même des ONG qui ont des bateaux comme SOS Méditerranée, Sea-Watch, il y en a plein d'autres, enfin plein, quelques-unes qui font du sauvetage, qui font du sauvetage en mer. Après il y a des zones où c'est plus compliqué d'aller dans les eaux libyennes. C'est assez compliqué d'aller faire du sauvetage. Mais Alarm Phone, dont on parlait tout à l'heure, qui travaille donc un peu sur toute la Méditerranée, donc mer centrale, mer Égée, plus proche du Maroc, tout ça, eux, leur travail, c'est de contacter les autorités compétentes. C'est de dire, là, il y a un bateau en détresse. Après, est-ce que le sauvetage a lieu à chaque fois? Bah, non, pas toujours. Du coup, ils peuvent être en contact avec SOS Méditerranée et avec d'autres bateaux.
Et par exemple, du coup, ces pêcheurs qui sont dans cette zone de Zarzis, ils peuvent appeler à l'Armphone et peut-être interagir avec quelqu'un en mesure d'aller chercher des acteurs, des actrices qui vont pouvoir restaurer la situation ou faire quelque chose.
C'est ça, ouais. Alarmphone ne fera pas le sauvetage, c'est pas eux qui font le sauvetage directement, mais si besoin, Alarmphone peut tout à fait faire le travail que les pêcheurs ne peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas toujours les réponses. Des réponses positives de la part des autorités, quoi. On n'a pas eu trop la chance de côtoyer pendant le séjour en Tunisie des gens qui faisaient du sauvetage. Du coup, c'est des choses aussi qui manquent au film, on va dire un peu sur la situation concrète en mer et comment le sauvetage se passe. Mais on peut avoir facilement des infos sur le site Info Migrants, par exemple, ou sur les sites de SOS Méditerranée, sur le site de Sea-Watch, sur comment ça se passe. Où il y a ils font des cartographies des zones de pêche et des zones de pêche, pardon, des zones de sauvetage. Et voilà, pour avoir plus d'infos précises que moi, je ne pourrais pas donner là.
C'est vrai qu'en regardant le film, j'ai été assez marquée par les témoignages de ces pêcheurs qui, du coup, repêchent les gens qui meurent en mer ou sont amenés à faire du sauvetage quand bien même eux, ils sont là en partie pour travailler, pour pêcher. Et ça montre une réalité, en fait, la réalité du territoire qui est moins visible en France, enfin, en tout cas, pas à la même intensité. Je sais pas, est-ce que tu as un avis là-dessus par rapport à peut-être ce qui se passe sur les frontières du coup françaises avec l'Italie? Est-ce que tu as l'impression que les situations sont comparables? Ou pas?
Alors, les situations, elles sont comparables avec la solidarité qui peut se mettre en place. C'est-à-dire que les gens de la montagne, qui vivent à la montagne, sont parfaitement au courant des difficultés de traverser une montagne, de marcher dans une montagne, encore plus de nuit, sans matériel. En mer, c'est un peu la même chose. Partir en mer avec un bateau qui se dégonfle au fur et à mesure que vous avancez, c'est comme ne pas avoir des chaussures de randonnée en montagne, quoi. À un moment, c'est dangereux, puis ça peut tuer. Donc, il y a des choses comme ça qui sont comparables. Il y a des réseaux de soutien qui sont comparables. Il y a un film qui a été fait par un collectif italien qui s'appelle Distribuzioni d'Albasso. Et ils ont produit un film, distribué un film qui s'appelle Milky Way et qui parle un peu de ça, Alors, j'ai pas vu le film, mais qui parle de la frontière franco-italienne et qu'est-ce qui se passe à la frontière franco-italienne en termes de solidarité, de passage,
Est-ce que tu peux rappeler le nom du film?
Milky Way, comme Voie lactée, comme le chocolat.
Peut-être. Moi, j'ai l'impression que, du coup, en écoutant ces pêcheurs, qu'en fait, le nombre de personnes qui meurent en mer est vraiment très très élevé et qu'eux ils sont constamment en lien avec ça et avec la vision de ce phénomène-là.
Il doit y avoir entre 2000 et 4000 personnes qui disparaissent en mer chaque année selon les années. Les routes, les chemins utilisés par les personnes varient aussi beaucoup, changent beaucoup selon les contextes politiques des pays. Nous, quand on y était, ça faisait 2 ans. La guerre en Libye, ça a commencé en 2011, je crois. Du coup, ça a été aussi un pays qui a vu beaucoup de personnes passer par la Libye. Peut-être parce que aussi les frontières étaient moins gardées. En tout cas, il y a plein de raisons qui font qu'on peut passer par la Libye. Quand on vient, par exemple, de l'Érythrée, de la Somalie, on va peut-être plus passer par la Libye que, par exemple, le Maroc ou l'Algérie ou même la Tunisie. Mais enfin, ça bouge beaucoup selon les contextes et les lois aussi en vigueur. Les lois, elles ont beaucoup évolué.
Est-ce que tu serais en mesure de nous expliquer comment se positionnent les autorités tunisiennes face aux migrations et comment ils accueillent ou n'accueillent pas les personnes migrantes?
Bon, depuis 2018, ça a changé. Et puis, je ne suis pas au fait des dernières lois qui existent en Tunisie. En tout cas, à l'époque, quand on a fait le film, quand on arrive en Tunisie, quand on vient d'un autre pays africain, par exemple, on peut avoir un titre de séjour parce qu'on est étudiant, parce qu'on vient travailler, donc provisoire. Et quand ce titre de séjour-là, je donne un exemple, hein, quand ce titre de séjour-là n'est plus valide et qu'on est encore sur le territoire, si on veut quitter le territoire, on doit payer des dinars de pénalité. On doit payer en gros les jours où on est resté illégalement. Par exemple, si on est resté 15 jours en plus de la validité de notre titre de séjour, pardon, eh ben, on devra payer l'équivalent de 15 dinars fois 30, je crois que c'était 30 dinars par jour. Bon, à vérifier, là j'ai un gros doute. Du coup, le gouvernement tunisien fait pas forcément sur le territoire la chasse aux migrants, en tout cas pas directement. Mais si tu veux quitter le territoire légalement et que tu es resté 15 jours illégalement, bah, tu devras payer 15 jours de pénalité. Il y avait un projet de loi qui avait été écrit en 2000, peut-être un an ou deux avant qu'on, peut-être même plus, avant qu'on arrive. Je suis désolé, là, sur les dates, je suis plus très au point.
Oui.
Il y avait un projet de loi d'accueil pour des personnes migrantes. Ce projet de loi, il a jamais vraiment vu le jour. Il n'existe pas en Tunisie d'association d'accompagnement aux personnes migrantes, quoi. Payées enfin, par l'État, quoi. Ça n'existe pas, ça. C'est souvent des ONG privées, des associations privées avec des fonds privés. Il n'y a pas de gestion publique de l'accueil des personnes qui arrivent en Tunisie, ou des personnes qui passent par la Tunisie pour aller en Europe, par exemple. Ça n'existe pas en Tunisie. Enfin, en tout cas, à l'époque, ça n'existait pas. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça existe. Par exemple, là, ce dont je parlais sur les pénalités, pour les étudiants, ça a été les étudiants qui ont plus de titre de séjour parce que, en fait, leur inscription à la fac n'a pas été faite dans les temps. Ils n'ont plus de pénalités à payer, par exemple. Ça, c'est un truc qui est arrivé quelques mois après qu'on quitte la Tunisie avec l'équipe de l'UNAPO et Romain. Mais voilà, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'accompagnement aux personnes migrantes en Tunisie.
Ok. Et du coup, les personnes qui s'activent sur ces questions-là sont des personnes comme celles que vous avez rencontrées qui font ça aussi par conviction et par humanisme aussi. Et là, bah, je te propose donc d'écouter un deuxième petit extrait du coup de quelqu'un qui apparaît dans le film et qui justement agit malgré tout en enterrant dans un cimetière, le cimetière des inconnus, les corps de celles et ceux qu'il trouve noyés en mer.
Et ces gens-là, la vie allait refuser ces gens-là. Nous, pourquoi on les refuse dans le dernier moment, donner un bon enterrement pour ces gens-là? Ça, c'est la faute de l'Union européenne. C'est dur vraiment lorsque vous voyez les tombes où on va enterrer les gens qui viennent, les cadavres. C'est ça la question qui se pose. Je le pose pour tout le monde, c'est pas pour la Tunisie, elle n'a plus de terrain. Vous savez, la Tunisie, elle est sortie de révolution. Ils ne sont pas intéressés à l'humanité, on dit. Mais ça, c'est le problème de tout le monde. De tout le monde humanitaire qui doit intervenir et nous aider un peu, soit pour les vivants, soit pour la cimetière. Il faut que tout le monde soit honte, même nous, le peuple du monde, qu'il bouge. Pourquoi? Parce qu'ils sont des Africains ou quoi? Parce qu'ils sont pauvres, malheureux chez eux. Malheureux, ils traversent le Sahara, des milliers de kilomètres, il y a des gens qui meurent dans le Sahara, maltraités en Libye, violés, massacrés. Vendu. Ça, c'est la responsabilité de qui? De tout le monde. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on trouve un moyen. C'est pas une faute d'estimer une vie meilleure. C'est pas un crime. Mais moi, je ne vais pas lâcher mes frères et mes soeurs et ma famille. Ce sont ma famille et je vais rester jusqu'au fin de ma vie dans cette cimetière-là.
C'est cet extrait-là que je voulais Enfin, je voulais qu'on en parle ensemble parce qu'il soulève la question de la mort et de comment on rend une mort digne à ces personnes qui sont échouées sur les côtes du coup tunisiennes. Comment vous l'avez rencontré cette personne et qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de son action ?
Sam Sedine, on l'a rencontré. Il était pêcheur. Il a arrêté la pêche à cause d'un accident. Il était un des premiers, du coup, sur le quai du port de Zarzis à nous parler. On était encore sur le bateau, il était sur le quai et puis il nous faisait des gestes, il nous parlait. La première chose qu'on a faite en arrivant en Tunisie, c'est d'aller à Zarzis pour 3 jours. De rencontres autour des questions de migration et de soutien et d'aide aux personnes qui veulent traverser la Méditerranée. Et donc, Cham Sedine Marzoug faisait partie des gens qui organisaient ces 3 jours de discussion, de films et de manifestations culturelles aussi, parce qu'il y a eu du théâtre au forum. Et donc, Cham Sedine Marzoug, il nous a beaucoup parlé de son activité de militant, notamment... par rapport au cimetière qu'il a créé lui-même, avec d'autres gens, mais surtout lui-même. Et il nous a, après 2 jours, amenés dans ce cimetière. Alors, le cimetière, c'est un terrain vague, en fait. Hein. C'est à quelques centaines de mètres de la mer. Et c'est un terrain vague qu'il a transformé avec une pelle et enfin, vraiment très peu d'outils et très peu de mains. Un cimetière de toutes pièces, quoi. Donc, il plante des arbres, des plantes, des fleurs pour le rendre plus joli. Il a mis un panneau aussi de description en plusieurs langues pour dire qu'est-ce que c'est. Mais s'il n'y avait pas ce panneau-là et ces quelques fleurs, ces quelques plantes, on ne saurait pas trop que c'est un cimetière parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de pierres tombales, en fait. Parce qu'en fait, on ne connaît pas le nom des gens, on ne connaît pas forcément les dates de mort de ces personnes-là. Donc du coup, c'est un terrain assez étrange. La première fois qu'on est arrivé, enfin, on y est allé qu'une fois avec Romain, puis deux, trois autres personnes. Mais c'est y a une ambiance... assez étrange. Là, c'était il y a 3 ans, donc j'ai du mal un peu à me replonger là-dedans. C'était un moment quand même assez difficile. On venait de passer 2 jours de discussion autour de l'exil, de la mort en Méditerranée, de plein de choses, des politiques migratoires. Donc, c'est arrivé après 2-3 jours de beaucoup d'informations, de beaucoup de rencontres, de beaucoup d'émotions aussi. Donc quand on arrive là avec Romain, Bastien, Shiraz, qui fait la voix off du film notamment, on a été très, je dirais pas choqués, mais ouais, assez... on était touchés, quoi. J'ai du mal à trouver des mots, là, mais... Mm. Mais on était... Ouais, c'était un chouette moment aussi, parce qu'en fait, il nous a raconté pourquoi il faisait ça... d'où ça venait chez lui cette envie de faire un cimetière, donc il l'explique très bien, quoi. C'est de donner de l'humanité à des gens qui l'ont perdu en mer et parce que rien n'était fait pour eux quand ils étaient vivants et qu'il fallait faire quelque chose pour eux même et encore plus pour des personnes qui n'ont rien eu ou peu de choses peut-être. Il fallait leur rendre quelque chose de beau à leur mort.
Parce que
c'est un peu difficile de revenir là-dessus. Mais...
Oui, j'imagine. Et puis bon, c'est la fin du film aussi, quoi. Donc c'est vrai que tu restes aussi dans cette ambiance-là où la mort est très présente. Et c'est vrai que lui, du coup, ce qui est assez surprenant et fort, c'est qu'il passe, j'imagine, beaucoup de temps pour donner donc essayer de donner une sépulture à toutes ces personnes-là. Fait, c'est vrai que la question des corps morts qu'on retrouve est très peu posée. En fait, on entend très rarement parler de comment gérer. Bon, gérer, c'est pas du tout un beau mot pour parler de ça, mais comment faire face, en fait, à cette situation où on a du coup des gens morts et Et où est-ce qu'on les place, comment on les reconnaît, et c'est quelque chose qui est assez peu présent en fait dans les débats et on en entend très peu parler.
Cette scène finale, le film il a beaucoup bougé. Comme on a très peu écrit en fait, on a écrit des choses pour préparer le film, mais on n'a pas écrit un déroulé du film avant de partir. Donc quand on est arrivé à Marseille pour faire le montage, bon, on a eu beaucoup de mal à savoir comment intégrer cette scène dans le film. Et en fait, on l'a mise à la fin, malgré que ce soit une des premières personnes qu'on ait rencontrées chronologiquement. Et c'est une des premières choses qu'on a filmées, ce cimetière avec Shams Eddine. On l'a mise à la fin parce qu'en fait, c'est un peu aussi ce qu'on avait vécu, nous. C'était aussi la fin d'un... cette question de la mort, là, que tu dis, effectivement, qu'elle est présente partout, en fait, et que la mettre au milieu du film ou au début du film, quand on faisait les montages, on n'arrivait pas à rebondir derrière, on n'arrivait pas à trouver une manière de construire une histoire avec cette histoire de cimetière et cette histoire de mort dès le début du film ou au milieu du film. Derrière, on était... mais on peut rien dire en fait sur la manière dont il en parle avec les mots qu'il a qui sont très beaux. Du coup on a mis cette scène finale à la fin
parce que oui c'est une action militante qui du coup ne vient presque plus en aide admettons ouais. pour le sauvetage ou le soutien des personnes qui sont sur ce parcours d'exil ou de migration et Et en fait, j'avais envie de te poser une question là-dessus. Le film s'appelle « Marge de manœuvre ». Et lui, justement, il agit, il est quand même dans l'action, mais il est vraiment dans une totale... Il prend ce qui lui arrive de la mer, on va dire, pour agir. Et c'est sa forme aussi de militantisme. À ce moment-là et dans le film. Et ça montre aussi les limites de l'action, et surtout, j'ai l'impression, du coup, sur le territoire tunisien. Et je voulais te demander quelles sont, en fait, les marges de manœuvre possibles de ces personnes qui militent contre les frontières en Tunisie.
Bonne question. pour Shams Eddine, par exemple, c'est vrai que sa marge de manœuvre à lui, on a l'impression qu'elle arrive à la fin, en fait, quand tout a été fait, tout a été essayé, tout a été mis en place pour aider les gens. Et lui, il arrive à trouver quelque chose de beau encore, malgré la mort et malgré c'est pas des échecs, mais malgré. Parfois les limites du militantisme sur l'aide aux personnes qui veulent traverser, quoi, parce que on fait face à, enfin moi je dis on, mais les militants font face à des lois internationales qui sont très très dures, très difficiles à contourner, très de plus en plus avec le contrôle aux frontières, avec les passeports biométriques, avec tout ça, avec les contrôles dans le désert aussi où il y a des checkpoints partout de l'armée sur le passage, sur les routes des gens. Donc Shams Eddine, lui, il arrive à toute fin, sa marge de manœuvre à lui, c'est ça, effectivement, c'est de proposer quelque chose de digne. Il y a un artiste algérien qui a décidé de financer en fait le cimetière avec notamment une chambre funéraire sur laquelle il est possible de faire des tests ADN pour savoir quelle est la personne qui a été retrouvée. Donc du coup, aujourd'hui, si on a des informations sur... un corps, c'est possible pour la famille de venir sur la sépulture de la personne disparue. Quoi. Donc, c'est un truc qui date de maintenant 2 ans. Donc, c'est un truc un peu positif
à retenir,
de l'évolution de ce cimetière-là. Pour les militants, les marges de manœuvre, elles sont... Elles sont dans les rencontres, elles sont dans le soutien au quotidien des gens, dans des rencontres tout au long de l'année avec différentes associations et collectifs. Par exemple, en France, par exemple, il y a des rencontres quand même très régulièrement. Il y a des sites d'information Dans chaque ville, il y a des cartes d'accompagnement pour les personnes qui arrivent sans papier, par exemple à Marseille. Il y a des cartes qui leur disent où aller pour trouver à manger, pour trouver de quoi s'habiller, pour trouver des aides juridiques, pour trouver des cours de français. Elles sont dans les marges de manœuvre, ces militants, elles sont dans le quotidien et dans des réseaux, en fait, presque à la fin de, moi, je dirais ça comme ça, mais d'amitié, de convivialité, de bienveillance. Et du coup, c'est sûr, pas toujours de trucs qui va aider la personne à avoir comment dire, une vie sans risque de se faire contrôler, sans risque de vivre à la rue, sans risque de ne pas manger. Ça, évidemment, il y a plein de limites à ça. Mais ce n'est pas des limites qui sont inhérentes au militantisme, c'est des limites qui sont inhérentes au système dans lequel on vit. Donc, les marges de manœuvre, elles sont là, elles sont dans ces interstices entre les gens, entre affinités. Moi, je les vois, on les a vus un peu comme ça avec Romain, en se disant que nous aussi, quand on était en Tunisie, finalement, on n'a pas fait grand-chose. Nous, on est arrivé avec un bateau, on a raconté un petit peu comment traverser la Méditerranée dans de bonnes conditions, enfin, si on peut partir dans de bonnes conditions, quels outils utiliser, des cartes, des GPS. Mais bon, c'est pas toujours évident quand les frontières ou la mer est gardée par les gardes-côtes d'arriver avec des jets de sauvetage, par exemple. Donc voilà, nous, ça a été de rencontrer des gens et de raconter un petit peu notre traversée à nous aussi en Méditerranée. Voilà, c'était des trucs un peu éphémères, là, pour nous, en tout cas, en Tunisie, mais ça a été des rencontres, quoi. Nos marges de manœuvre, je dirais. Ça a été beaucoup ça. Au début, le film, on voulait l'appeler « Quand les vents se rencontrent », parce qu'il y avait les vents de la mer et puis voilà, les vents, on peut dire, des routes de chacun des personnes qui veulent traverser, nos routes à nous, voilà, qui se rencontrent et qui se traversent, quoi.
Ok.
Parce que je sais pas si c'est très clair et
oui,
tout.
Oui, non, c'est super clair, ouais. Non, mais enfin, tout au long du film, t'es assez frustré, en fait, du manque, en quelque sorte, de marge de manœuvre, en fait. Et j'ai l'impression que ces gens-là qu'on rencontre, ils ont une force incroyable parce qu'ils continuent à agir quand bien même ils ont très peu de possibilités. Et je crois que moi, c'est vraiment les pêcheurs qui m'ont marqué ou eux, c'est leur, en quelque sorte, c'est un peu leur destin là, de faire face tout le temps aux gens qui vont rencontrer en mer et de devoir assurer... quelque chose qu'ils n'auraient pas à assurer, en fait.
Bah, par exemple, les militants d'AlarmPhone, il y en a dans tous les pays, enfin, il y en a dans beaucoup de pays d'Europe, il y a aussi beaucoup de pays d'Afrique, Algérie, Maroc, Tunisie, par exemple. Pour le coup, eux, c'est vrai qu'aussi, ils travaillent à côté. Enfin, ils sont, bon, c'est comme en France, on dirait, hein, les gens, ils sont bénévoles sur ces charges-là à avoir d'accompagnement, d'aide, de soutien. Il y en a, ils sont peut-être militants au quotidien, mais c'est des, ouais, voilà, c'est, ils ont pas beaucoup de marge de manœuvre, effectivement, avec les lois de leur pays et leurs difficultés économiques aussi, quoi. Il y a ça aussi, quoi. On a rencontré beaucoup de militants qui sont dans des précarités de vie très fortes, quoi. Ils ont déjà pas beaucoup de marge de manœuvre pour vivre eux, mais pour aider et accompagner les gens, voilà, ça les empêche pas de le faire. Mais
ce que dit cette personne donc dans le dernier enregistrement qu'on a écouté, c'est aussi il pointe le fait que c'est une responsabilité de tout le monde de gérer ça, hein, et de le faire au mieux. Comment la situation en Tunisie, elle est influencée par l'action, ou en tout cas la non-réaction de l'Union européenne. Quels sont les liens, en fait, qui imbriquent la politique européenne et la politique tunisienne, oui, ou en tout cas de gestion de la migration de l'autre côté de la Méditerranée, du côté du Maghreb? Enfin, j'avais envie de savoir, en fait, quelles étaient les conséquences à... ce qu'on appelle l'externalisation des frontières. En fait, quelles influences a le fait que l'Europe relègue aux autres pays la gestion des flux migratoires?
J'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses. Après, pareil, depuis 2018, ça a quand même beaucoup évolué, ces imbrications. Par exemple, en termes de fermeture des frontières en Afrique, avec la militarisation des frontières, un pays, par exemple, va pouvoir se voir aider via l'Agence française de développement pour des projets culturels, d'éducation, en échange de militarisation de zones. avec la présence militaire française, par exemple, avec la mise en place de checkpoints biométriques sur des frontières où il n'y avait jamais eu de poste frontière avant. Et du coup, ça influe beaucoup. C'est très important dans voilà là-dedans quoi. En Méditerranée, par exemple, Frontex, une des premières missions qu'ils avaient, c'était Mare Nostrum. C'était pas seulement de fermer les frontières, c'était aussi quand même de faire en sorte de sauver les gens quand même. Il y a eu ça un peu. Mais ça a pas duré. Et après, on s'est contenté de en fait d'empêcher les gens de passer. Frontex a de plus en plus d'argent et de plus en plus de moyens de fermer les frontières à la limite des frontières européennes.
Excuse-moi de te couper, mais pour les auditeurs et auditrices, est-ce que tu te sens de rappeler qui est Frontex ?
C'est une organisation qui est financée par l'Europe pour le contrôle des frontières. Elle a été créée en 2004 et elle est financée par les États membres de l'Union européenne. Ils gèrent les frontières dans l'espace Schengen et les frontières extérieures de l'espace de circulation. C'est-à-dire, par exemple, Schengen, au-delà de la Pologne, par exemple, et ben là encore, Frontex peut agir. Ils ne sont pas uniquement sur les pays européens, ils sont vraiment en bordure de l'Europe aussi. Qu'est-ce qu'ils font après? Ils peuvent aider aussi à l'enregistrement des personnes migrantes. Voilà. Enfin, ils ont tout un tas de prérogatives sur la gestion en fait des personnes qui veulent venir. Donc la gestion, c'est surtout le contrôle et
le retour aussi.
Et le retour et l'interdiction de rentrer quoi. Souvent c'est plutôt ça d'ailleurs. C'est que les aider à trouver le bon bureau pour demander des papiers quoi. C'est pas ça du tout quoi. C'est plutôt l'inverse quoi.
À un moment donné dans le film, il y a du coup la personne qui fait la voix off qui dit que l'Europe en quelque sorte finance des Zodiacs équipés de mitraillettes aux gardes-côtes libyens.
Ouais.
Est-ce que ça c'est assumé, avoué, ou est-ce que c'est un peu aussi des espèces de contrats, de pactes qui se font officieusement entre l'Union européenne et les pays comme la Libye, par exemple?
Ouais, bah ça, par exemple, sur les porte-mitraillettes, nous on a appris ça pendant le film. Il n'y a pas une ligne budgétaire de Frontex qui va dire on va équiper ces bateaux-là de porte-mitraillettes, quoi. Par contre, il y a des enveloppes d'argent qui sont ensuite utilisées un peu comme veulent bien le pays qui en bénéficie, voilà, quoi. Donc oui, il y a, comme je disais par exemple sur tout à l'heure avec l'aide au soutien l'AFD, là, l'Agence française de développement, bah pareil, c'est on vous donne ça et puis en échange vous nous donnez ça, mais il n'y a pas clairement des lignes explicites qui racontent ça. C'est de la diplomatie entre pays, quoi. La Commission européenne ne vote pas pour tant de budget pour tel pays, quoi. C'est les pays en Afrique, par exemple, qui vont avoir besoin de ça. Ben, on leur dit, ben, très bien, vous demandez 150 000 euros pour un projet, je sais pas, culturel ou d'accompagnement à la culture dans une ville. Et ben, nous, dans l'autre sens, on aimerait bien que vous installiez des postes frontières là et là, quoi. Voilà, c'est des choses comme ça qui se jouent. Tu verras jamais un rapport de la Commission européenne qui dira on a financé ça en échange de ça.
Comment, du coup, les gens que vous avez rencontrés perçoivent l'Union européenne et cette gestion-là des frontières?
Disons qu'il y a à la fois l'envie, quand même, que les frontières soient ouvertes et que l'Europe soit ouverte comme un territoire, comme un espace de libre circulation, comme il est dit dans plein de constitutions. En fait, les gens peuvent circuler librement. Donc, on veut pouvoir accéder à l'Europe comme vous, comme moi et Romain, par exemple, on a eu accès à la Tunisie, quoi, c'est-à-dire sans faire de demande de visa. Et dans l'autre sens, bah oui, on critique l'Europe parce que cette Europe-là, elle est aussi responsable du départ des gens. Alors après, le départ, il n'est pas toujours économique et politique, là, comme je viens de dire. En fait, il y a aussi les gens, ils veulent juste pouvoir voyager, quoi. Du coup, l'Europe est quand même responsable, et bien avant ça, avec la colonisation, de la pauvreté de certains pays, de tous les pays d'Afrique. Donc, il y a une grosse responsabilité de l'Europe sur l'état actuel des pays anciennement colonisés et puis qu'on peut toujours un peu qualifier de colonisés économiquement. Donc il y a une forte critique de l'Europe pour ça, quoi. Vous venez chercher des matières premières en Afrique, mais vous assumez pas le fait que nos pays soient démunis face à l'exil de la jeunesse tunisienne, aux exils de, enfin, pour donner l'exemple de la Tunisie, mais voilà, les gens n'ont pas d'avenir en Tunisie. Très peu, quoi. Après, par contre, on a rencontré aussi des jeunes qui nous disaient, mais nous, on veut aller en Europe, on veut voyager, on veut même revenir chez nous, en fait. On veut juste pouvoir. On a rencontré des Algériens qui voulaient juste aller faire le Ramadan à Marseille. Ils voulaient revenir après, quoi. Mais du coup, ils devaient partir par la mer, quoi. Ils devaient traverser des frontières, ils devaient. Traverser des frontières, pour nous, pourquoi pas, mais dans ce sens-là, c'est bien plus compliqué.
Quelle réflexion ce voyage t'a amené à avoir autour de la notion un peu des privilèges? Est-ce que tu l'as ressenti de façon assez forte, toi, ce privilège de pouvoir voyager jusque là-bas et qu'à l'inverse, de sentir que les gens en Tunisie se sont bloqués en quelque sorte sur place?
Ouais, on l'a ressenti assez fortement. Par exemple, dans le film, un moment, quand il y a l'atelier de sécurité en mer, où, pour les gens qui n'ont pas vu le film, c'est compliqué, mais puis je spoil un petit peu, mais quand on présente, enfin, quand il est présenté les différents outils nécessaires à une traversée, on va dire, avec moins de risques, Hussein, qui est interviewé aussi dans le film, il dit, mais en fait, ça, c'est... Je ne sais même plus ce qu'il dit. Il dit quoi exactement?
Il dit, en fait, mais le problème, c'est que quand nous, on n'a pas, admettons, des vestes pour avoir chaud, c'est ça, non? C'est un peu sur cette question d'être bien équipé en mer. Et lui, il explique que les personnes qui migrent n'ont pas du tout ces équipements-là.
C'est ça, voilà. Du coup, par exemple, pendant les ateliers de sécurité en mer, on a très bien senti le privilège qu'on avait eu de traverser la Méditerranée en voilier, quoi, avec tout le matériel qu'il fallait de sécurité, avec autant de litres d'eau qu'il fallait pour 5-6 jours de traversée, avec la bouffe qu'il fallait, avec tout ce qu'il fallait pour être confortable, en fait. Donc, traverser la Méditerranée en voilier, c'était déjà un privilège énorme en soi, quoi. Quand on est arrivé en Tunisie, ils sont à peine montés dans le bateau, ils ont rien vérifié du tout. Ils auraient pu très bien vérifier si, je sais pas moi, si on avait de l'alcool, si on avait des armes, enfin j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais nous voyant arriver avec notre petit voilier de blanc marseillais, les Marseillaises, en fait on avait accès à tout, quoi. On s'est jamais posé la question de ah bah là, peut-être ça va être compliqué. En fait, tout le temps on a été en fait bien accueillis. Sans discrimination, sans a priori, tout ça, quoi. Enfin, par exemple, nous, on nous a jamais demandé où est-ce qu'on allait dormir le soir, quoi. Quand on a invité Jamel à venir en France, donc qui est le metteur en scène du théâtre forum, pardon, il a fallu donner des milliers de justificatifs d'argent, de logement, de transport, pour dire il sera là, il sera là, il sera là, à tel jour, il sera là à tel jour. Enfin, voilà, évidemment. Pas la même chose, quoi.
Dis-moi, est-ce que on peut trouver ce film? Est-ce que les auditeurs auditrices qui vont écouter cette interview pourront avoir accès au film et le voir?
Il faut aller sur le site de Primitivi, donc primitivi.org, et sur le site internet, il y a une page dédiée au film. Et sur cette page dédiée au film, voilà, un accès direct.
Et le film qui s'appelle donc Marge de manœuvre. Moi, je mettrai toutes les informations sur le site de la radio rdwa.fr pour que vous puissiez aller trouver ça facilement. Du coup, je te remercie, Mathieu, d'avoir participé à cette interview. Et d'avoir répondu à toutes mes questions.
Merci beaucoup. Là, ça faisait longtemps que j'étais pas là, enfin que j'étais pas dans le film. Je m'excuse si ça n'a pas toujours été très très clair, mais c'était super de pouvoir en reparler en tout cas.
Oui, parce que c'est vrai que du coup, ce que tu m'avais dit, c'est que avec donc toute la période de Covid, tout ça, vous n'avez pas vraiment pu présenter ce film à droite et à gauche.
Ben, il a été présenté une petite quinzaine de fois, c'est ça, et que ben, après, il y a eu effectivement le Covid, donc on n'a pas trop pu continuer à le diffuser. Donc maintenant, en fait, on se dit, bah, maintenant, allez, hein, il peut vivre sa vie sur Internet. Et s'il y a des gens qui veulent quand même organiser des projections et nous inviter à venir en parler, on sera quand même ravis de se déplacer pour présenter le film et puis parler de cette histoire.
On va du coup s'écouter une dernière parole qui nous rappelle voilà, ce que c'est aussi la liberté de circulation et que tout le monde devrait pouvoir avoir accès à cette liberté-là. Je vous dis à tout le monde, à tout bientôt.
Au revoir, merci à tout le monde d'avoir écouté.
L'Afrique est digne, l'Afrique est fière, l'Afrique est libre. On dit non, non aux frontières. Plus vous fermez les frontières, plus vous nous tuez, plus vous nous condamnez. Ouvrez les frontières, car tout le monde est libre. Nous sommes partout chez nous. Nous sommes partout chez nous, sans distinction de race, de religion, de culture, de croyance, de sexe. Nous sommes égaux, nous sommes pareils, nous sommes humains.
اللغة وقعد الموضوع مواطن مكدوم الشجرة مقطوع في بيرو الشغل صبعه مرفوع مرتاح كيكي بيت المركز مخلوع كابتن خاص تتركب تقول جربوع بكشي مرضى بالقلب مراتي توع ينبوع بدموع مع شموع كارتة دينيري حية واسبوع حلاش في اللاتاك ضرب كاس ومع تراك تكنتير تفرقيل شلابك تاكسير شتاقات تفرقي عتقنبيل شد فحديد الكادرات كراكاش في البارا شلون تقابلو في استاد قرجيك اخف عشقف في بيرو تكف اللي خف يشد الصف عزر لي واضرب بالكف
شنية لشنية لشنية
قاعدين تحت الحيط تحت ملاح ديدة منا اثنية اثنية
بخشي في بالك مصايبة this vibe وزيد في الصون this في السايفة موف ما عندها مدايدة شويرة خايدة استلامي الزون لغة هاي هاي بخشي في بالك مسايبا this vibe وزيد في الصون this في السايفة موف ما عندها مدايدة شويرة خايدة استلامي الزون لغة هاي هاي تقفز نص الدروس ما عرفتهمش قديش لا واحد لا زوز طعم بتهوني نفسرو ونكسرو في اللوز مرة ربوخ مرة بلوز برنوس وسكيت شوز سلمنا على بعضنا ولا تيجوز ولا يجوز حمو في بعضنا عشيري كي ربطة المعدنوس ياو لمو في بعضنا عشيري الدنيا فيها نفوز زوز كعبديني حتى كعبديني في الزوز يلعبوا في عويني من القرد عن البلوز سقسي على الكارتة في التروس سقسي عليه بوري مان كوس مان ستيس باركوس مان توسي فرانسوس مان فرسو مامسو بخشي في بالك مسايبة this vibe وزيد في الصون this في السايفة موف ما عندها مدايدة شويرة خايدة استلامي الزون لغة هاي هاي بخشي في بالك مسايبة this vibe وزيد في الصون this في السايفة موف ما عندها مدايدة شويرة خايدة استلامي الزون لغة هاي هاي